Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séances Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Dans ce flashback du mois de janvier, on parle des ressorties du jour où la Terre s'arrêta, de Diamant sur canapé, de La Rivière Rouge, du Poison, d'Assurance sur la mort, de deux films de Stanley Kubrick, sans compter un documentaire sur une figure majeure de la cinéphilie, Jean Douché. Nous évoquons toutes ces ressorties en compagnie de Patrick Brion, invité spécial de Flashback. On commence cette riche actualité des ressorties du mois de janvier avec un film de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, réalisé en 1951, qui ressort en version restaurée 4K le 3 janvier avec Michael Rennie, Patricia Neal et Hugh Marlowe. Alors, un soir, une soucoupe volante atterrit sur Terre alors qu'on les croyait hostiles. Les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour l'humanité sur la musique formidable. Ayant revu le film de Bernard Herrmann, c'est un conte philosophique qui, à l'époque, était très éclairant sur le péril nucléaire, mélangeant science-fiction et thriller, un peu naïf, mais il demeure toujours captivant. Il faut rappeler que Robert Wise est un grand spécialiste du montage, puisqu'il fut le monteur d'Orson Welles sur Citizen Kane, et on demeure encore frappé par la précision du montage. C'est une de ses grandes réussites, et le film d'ailleurs a de nombreux admirateurs, dont un certain Joe Dante qui dit que peu de films de science-fiction des années 50 sont aussi érudits, intelligents et soignés. Ce film est unique. Patrick Brion.
Absolument. Et la phrase qui est dedans, Clara Doux, Barada Nicto, est bien connue. Ça fait partie de notre souvenir, de notre mémoire personnelle du cinéma. Non, c'est un film, je vous trouve même un peu sévère avec le film. C'est un film très intéressant. C'est un film toujours d'actualité, où on voit en fait l'homme venu de l'espace, que joue Michael Rennie, venir prévenir les terriens que s'ils continuent à jouer comme ça avec l'atome, il risque d'y avoir un problème et qui vont gêner tout le monde. Et on voit dedans Sam Jaffe qui ressemble curieusement à Einstein. Non, c'est un film très très intéressant, je trouve. Ouais.
We have come to visit you in peace and with goodwill.
I want to meet with representatives from all the nations of the earth.
The president is prepared to declare a state of national emergency.
Obviously, the monster must be found. He must be tracked down like a wild animal. He's not 8 feet tall, as reported, nor does he have tentacles.
I like you, Mr. Carpenter. You're a real screwball.
I don't like the way he's attached himself to you and Bobby. After all, what do you know about it?
Autre ressorti de ce mois de janvier, Breakfast at Tiffany's, autrement dit Diamant sur canapé de Black Edwards, réalisé en 1961, qui ressort lui aussi en version 4K le 17 janvier. Audrey Byrne interprète Holly, une jeune femme qui cherche la compagnie des hommes riches alors que son voisin, écrivain en panne d'inspiration et fauché, joué par George Peppard, tombe sous son charme. Alors le film devait être au départ dirigé par John Frankenheimer, qui aurait voulu Marilyn Monroe pour incarner Molly, remaniant le scénario de George Axelrod, tiré d'un court roman de Truman Capote. Black Edwards s'est éloigné de la comédie sophistiquée d'origine, qu'elle demeure hein, quand même toujours, pour explorer une voie plus acide et plus personnelle. Pour l'anecdote, Audrey Hepburn a déclaré que la séquence où elle met le chat dehors était la plus difficile qu'elle ait jamais tournée. C'est un film culte, d'une certaine manière, rentré dans le panthéon grâce à l'élégance d'Audrey Hepburn, habillée comme de coutume par Givenchy, sa vision mélancolique de Big Apple, la célèbre joaillerie Tiffany sur la 5e avenue et bien sûr sa fameuse chanson Moonraver, écrite par Johnny Mercer et composée par Henry Mancini.
Wherever you're going, I'm going your way.
Howard Hawks fait partie des ressorties grâce à La Rivière Rouge, réalisée en 1948, qui ressort le 17 janvier avec John Wayne et Montgomery Clift.
Oui, c'est même le premier film où il y a Montgomery Clift. C'est un western dans lequel il y a vraiment tout ce qui fait qu'on aime le western. Il y a un scénario de Borden Chase, qui est un des grands auteurs de western. Il y a une musique de Dimitri Tiomkin qu'on retrouvera aussi dans et le train sifflera trois fois et dans des tas d'autres westerns classiques. Il y a un éleveur mégalomane qui a un troupeau de 1000 têtes de bétail, évidemment, cet éleveur, c'est John Wayne. Il y a le décor de western aussi par excellence. Bon, je crois que c'est un des westerns emblématiques, peut-être un des 10 westerns qui comptent.
Oui, c'est un des grands westerns et c'est le rapport classique entre un adulte et ce qu'on appelle un tenderfoot, un jeune.
Un pied tendre.
C'est ça. Et les deux, vraiment le rapport entre John Wayne et Montgomery Clift est formidable.
Flashback depuis un certain temps maintenant et victime, mon cher Antoine, d'une incongruité étrange. Nous n'avons encore jamais parlé de Stanley Kubrick.
Alors là,
c'est quand même un petit peu curieux, mais bon, on dépend aussi de l'actualité. Donc, l'actualité nous sourit heureusement avec deux films de Stanley Kubrick qui sont ses deuxième et troisième films. Le baiser du tueur killer qui se réalise en 1953, qui ressort le 17 janvier, et l'ultime razzia réalisé en 1956, qui ressort le 3 janvier. Le baiser du tueur qui fait suite à Fear and Desire, le film que Kubrick voulu détruire, qui n'a pas reconnu, renié pendant toute sa carrière. Le baiser du tueur s'est tourné en décor naturel dans les rues de New York. Il y a une invention visuelle manifeste, notamment dans la séquence du match de boxe ou la bagarre dans la réserve à mannequins. Mais selon Patrick Brion, le film est un peu tape à l'œil.
Oui, mais ça, c'est le défaut qui disparaît de temps en temps dans l'œuvre de Kubrick. C'est un côté un peu tape à l'œil, oui. Moi, je préfère The Killing.
Donc, l'ultime razzia.
Il est tape à l'œil par son montage. Ouais. Mais son montage est d'une efficacité éblouissante. Il est complètement déstructuré, le film.
Ouais. Je pense que les deux films, c'est assez marrant parce que ces deux films sont quand même le reflet d'une époque à peu près semblable, puisqu'ils sont tournés à un ou deux ans d'écart. C'est tous les deux des films de losers, donc il y a quand même des points communs. Et en même temps, c'est des films très différents. Moi, je pense que
Je rappelle juste pour les auditeurs qui n'auraient pas vu l'ultime razzia encore, c'est avec Sterling Hayden, c'est l'histoire d'un repris de justice qui fomente un hold-up astucieux.
Voilà, dans un champ de course. Mmh. Et donc, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que le baiser du tueur, c'est vraiment le Kubrick quand même photographe. C'est le, s'il y a des plans extraordinaires, l'actrice longiligne, même le personnage, le méchant dans le baiser du tueur, Frank Silvera, a une tête tout à fait étonnante quand il est dans sa voiture. C'est toute une époque. C'est plein de symboles. C'est vraiment un film qui est extrêmement stylisé, alors que au contraire, l'ultime razzia, finalement le Sterling Hayden qu'on voit dedans n'est pas si éloigné que ça du Sterling Hayden de Quand la ville dort. C'est un loser un peu de la même manière, peut-être un petit peu moins tragique que dans Quand la ville dort, mais quand même on a une histoire aussi, un personnage classique de ce genre de film qui est Elisha Cook Jr. Qui joue un pauvre type qui va être trahi et entraîner finalement toute la chute avec la Mary Windsor, ouais. Voilà, qui était une actrice très grande. Ouais. Donc c'est assez marrant parce qu'elle mesurait 1m80 et donc elle avait une certaine autorité sur les hommes et ça passe très bien dans ce film. Et donc on a quand même un film qui est plus un grand film noir et que finalement Kubrick a en quelque sorte payé son tribut au grand film noir à travers l'ultime razzia, alors que Le baiser du tueur, c'est, alors il y a un côté un peu tape à l'œil, mais moi je dirais qu'il y a aussi un côté peut-être plus absolument personnel de Kubrick, oui, non. par rapport à son parcours de photographe.
Non, ça il faut pas diminuer la qualité des deux films. Kubrick montre là qu'il est capable de tourner. Fear and Desire est un film donc qu'il n'aime pas, qui a très mal marché, qui est sorti n'importe comment aux États-Unis, vaguement, enfin qui est un film de guerre, mais très très compliqué à suivre. Tandis que là, il va montrer au studio qu'il sait tourner, qu'il sait monter. Bon, au studio parfois, il faut faire un peu de, il faut bien le montrer les choses. Et les deux films ont très très bien vieilli. Je les ai revus récemment, ils sont très 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 bien.
Donc deux films de Stanley Kubrick à redécouvrir dans les salles. Autre cinéaste à l'honneur, ce mois-ci un cinéaste que nous affectionnons particulièrement dans Flashback, puisque nous en parlons régulièrement, c'est Billy Wilder. À l'occasion de la ressortie de deux films qu'il tourna coup sur coup, tout d'abord Le Poison, The Lost Weekend, réalisé en 1945, qui ressort le 10 janvier avec Remy Lund et Jane Wyman. Début de la consécration pour Billy Wilder à l'époque, avec 4 Oscars, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur pour Remy Lund, qui joue Don Burman, un New-Yorkais de 33 ans qui s'apprête à partir en week-end avec son frère qui essaie vainement depuis 6 ans de le désintoxiquer de son emprise à l'alcool. Ce jour-là, il trouve encore une bouteille suspendue par une ficelle à la fenêtre et ça va être toute une journée voilà, très, très dure finalement, puisque c'est quand même un des premiers films vraiment qui traite frontalement du thème de l'alcoolisme. C'est un film pas forcément le plus connu de Billy Wilder, curieusement, mais qui est assez presque atypique dans sa carrière.
Ouais, qui est peut-être plus dans les, il y a souvent quelque chose de sombre dans les films de Billy Wilder quelque part, mais enfin c'est quand même souvent caché derrière la drôlerie. Là, là franchement c'est pas le cas. C'est vraiment un film sombre. Celui-là.
Mais c'est intéressant parce qu'il a été tourné en pleine ville, avec une camionnette où il y avait juste un endroit pour laisser passer l'objectif de la caméra. Ouais, mais...
Là, quand Remy Lund planque sa bouteille, c'est vraiment, c'est tragique.
Ah, le malheureux, on a vraiment envie de prêter une.
Ouais.
Et l'année suivante, Billy Wilder change de registre avec le film noir, évidemment, avec Assurance sur la mort, Double Indemnity, réalisé en 1946 avec Fred McMurray, Edgar G. Robinson et Barbara Stanwyck. Avant, Antoine, que vous nous parliez de votre actrice préférée, je rappelle juste le pitch très rapide. C'est un employé d'une compagnie d'assurance qui tombe amoureux de sa cliente et qui échafaude avec elle un plan pour supprimer le mari encombrant et ainsi partager avec elle l'assurance vie de ce dernier.
Je crois que ce film-là, c'est quand même le maître, l'un des maîtres étalons du film noir. Il y a absolument tout ce qu'on veut trouver dans un film noir. Il y a une femme fatale qui fomente le meurtre de son mari. Il y a une escroquerie à l'assurance. Il y a un scénario d'une histoire de James M. Cain. Enfin, et puis il y a en effet Barbara Stanwyck qui est une espèce de, alors je trouve déjà de pré-caricature de la société de consommation, parce qu'on la voit voit dans un supermarché quand elle se donne des rendez-vous secrets avec Fred McMurray, quand elle arrive sur la véranda avec son avec sa chaîne autour de la cheville, cette espèce de perruque qui la faisait ressembler, disaient les producteurs du film, à George Washington, et qui montre bien l'idée d'une femme qui a tellement envie d'être riche et d'avoir l'air riche qu'elle se fait rajouter des cheveux, et donc il y a voilà, c'est un film extraordinaire parce que il y a toute la beauté du film noir, la tragédie du film noir, et en même temps une ironie, une critique déjà sous-jacente de la société américaine. C'est un film très puissant.
Et on va sentir que on sent que le malheureux Fred McMurray s'en sortira pas.
Ah oui, ça c'est sûr. Et Fred McMurray qui jouait quand même souvent, qui était toujours un peu entre des personnages soi-disant de séducteurs et en même temps quelqu'un d'assez falot et d'assez et finalement assez quelconque.
Mais là, quand on, l'apparition de Barbara Stanwyck, quand on la voit descendre l'escalier, elle explique qu'elle venait de se faire dorer.
Absolument.
Donc elle a manifestement rien.
En dessous.
Son espèce, oui, elle a rien en dessous, elle a juste sa chaînette.
Ce qui, par rapport au code Hayes et à ce qu'il était autorisé de suggérer ou de ne pas suggérer, est probablement un truc qui va assez loin.
Ce qui prouve qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait, oui. Et qu'à ce moment-là, le malheureux Fred McMurray, il est fichu. Oui, ouais.
See what I mean, Walter?
Sure, I got good eyesight. You mean you want him to have the policy without him knowing it? And that means without the insurance company knowing that he doesn't know it. That's the setup, isn't it?
Is there anything wrong with it?
No, I think it's lovely. Then if some dark, wet night, that crown block did fall on him.
What crown block?
Only sometimes it can't quite make it on its own. It has to have a little help.
I don't know what you're talking about.
Of course, it doesn't have to be a crown block. It can be a car backing over and we could fall out of the upstairs window. Any little thing like that, just so it's a morgue job.
Are you crazy?
Et enfin, on termine cette rubrique avec un documentaire Jean Douché, l'enfant agité, co-réalisé par Fabien Agège, Guillaume Namur et Vincent Asser, qui sort dans les salles le 24 janvier. Alors, ils ont tous les trois grandi dans le Val d'Oise et ils ont un jour rencontré le grand critique de cinéma Jean Douché à son premier ciné-club à Angiens-les-Bains, avec lequel ils ont noué une amitié intergénérationnelle. C'est eux qui guident le film, l'interviewant, allant à la rencontre des personnes qu'il a marquées, notamment Barbet Schroeder ou Xavier Beauvois. Jean Douché débute au Cahier du cinéma et à Arles, devient même rédacteur en chef adjoint avec Éric Rohmer de la célèbre revue. Il est l'auteur d'un ouvrage sur Alfred Hitchcock paru en 1967. Il réalise à cette période, durant les années 60, trois courts-métrages, ce qu'on sait peut-être moins. Dans les années 70-80, il devient animateur de ciné-club. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, on voit des archives assez savoureuses de ces moments-là. Puis directeur d'analyse filmique de l'IDEC, où il a notamment pour élèves Arnaud Desplechin et Noé Milowski, qui d'ailleurs participent et sont présents dans ce documentaire. Il donne aujourd'hui des cours à la Cinémathèque française. Il a présenté plus de 1000 films et anime le ciné-club qui porte son nom au cinéma du Panthéon. Le film s'appelle L'enfant agité car il s'agit du titre d'un scénario écrit par Douché dans les années 80 et jamais tourné. C'est le portrait d'un original et hédoniste passionné, dissertant sur le cinéma bien sûr, mais aussi sur la vie, la mort et l'amitié. Patrick Brion, je crois que c'est une personnalité que vous connaissez bien, c'est le portrait tendre d'un infatigable passeur.
Oui, ça je connais bien Douché depuis plusieurs décennies. Oui, c'est un passeur, il est toujours très très utile parce qu'il est convaincant, il aime profondément le cinéma, et j'avoue, je me souviens une fois d'une présentation, où ça devait être il y a un demi-siècle, au studio Parnasse, où il a fait une présentation le mardi soir, il y avait une espèce de discussion, il a mobilisé l'attention pour parler d'Hitchcock, c'était éblouissant. Parce que non seulement c'est un homme intelligent, mais c'est un homme qui réussit à faire passer son intelligence et sa passion pour le cinéma. Au Cahier du cinéma, ils l'ont assez mal utilisé. C'est le moment où il y a eu tout cet antagonisme entre Rohmer, que certains avaient envie de virer, Rivette et les autres. Il en a été tout de même victime parce que il était manifestement l'un des plus intelligents de la deuxième version des cahiers, pas la version Truffaut, Godard qui était avant, mais celle d'après.
Ce qui est très très beau dans notre histoire avec Jean, c'est que j'ai pu lui rendre tout ce qu'il m'a donné, quoi.
Pour moi,
moi, cet exercice d'exégèse, c'était vraiment un rêve que je n'avais jamais trouvé ni dans mes lectures critiques, ni dans les livres de théorie du cinéma que j'avais pu lire.
Douchet, il nous apprenait qu'on pouvait mieux vivre grâce au film, mais aussi mieux voir les films grâce à une bonne vie.
On adorait Duchamp, c'était notre maître à penser, on était d'accord avec tout ce qu'il disait.
Duchet, surtout, tu commençais à vraiment pouvoir l'aimer, t'en servir, etc. Quand tu renonçais aussi un peu à pouvoir l'expliquer et que t'acceptais que c'était une expérience un peu intime.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio.
Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film.
Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi.
Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio.
Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio.
Avec plaisir, merci beaucoup.
À 19h et sur toutes les applications podcast.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.